Très chers auditeurs, auditrices de l'émission Multipassion, j'ai la joie et le plaisir de recevoir aujourd'hui Sarah Reski. Alors, une femme extraordinaire au parcours de vie hors du commun, pleine de combativité, d'empathie, de compassion et qui a créé Fight X Life, une association qui aide les gens malheureusement atteints du cancer et aussi les enfants. Alors, bonjour Sarah.
Bonjour Virginie.
Alors, comment vas-tu? Est-ce que je peux tutoyer, vous voyez?
Bien sûr, tutoie-moi.
Alors, bien écoute, comment vas-tu? Voilà.
Je vais bien, aujourd'hui je vais bien, tout se passe bien.
Alors est-ce qu'on peut évoquer pour nos auditeurs et auditrices eh bien, ton parcours aussi personnel face à la maladie que tu as dû affronter, je crois, dès l'âge de 17 ans, hein, c'est ça?
Tout à fait. Donc mon premier cancer date de mes 17 ans. Donc ça a été vraiment, d'abord ça a été le déni. À ce moment-là, puisque j'étais jeune et je voulais vivre ma vie et que j'avais déjà perdu mon papa d'un cancer. Et donc, je pense que j'étais plutôt en mode déni. J'ai mis ça de côté. J'ai subi une opération à cette époque-là. Et puis, je suis revenue à la vie insouciante de ce qui se passait ce qui s'était passé dans ma vie.
Alors, est-ce qu'on peut dire aux auditeurs, auditrices, de quel type de cancer tu étais atteinte? Parce que finalement, même quand on est jeune, c'est vrai qu'on ne pense pas du tout à ça. Peut-être que ça aide, malheureusement, tu es bien placée pour en parler, pour combattre. Mais de quel cancer étais-tu atteinte, si tu veux bien en parler? Pour la prévention aussi, parfois.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tabou pour moi concernant tous les types de cancers, de toute façon. Donc moi, j'ai eu un cancer très rare qui s'appelle un leiomyosarcome, mais qui en réalité c'est un cancer au fait de l'utérus. Et donc ça c'est à 17 ans. Plus tard dans le temps, j'ai été diagnostiquée d'un cancer, donc toujours de l'utérus, métastasé aux deux poumons.
Et alors comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des douleurs? Comment est-ce que quand on est jeune, est-ce qu'il peut y avoir une prévention? Parce que finalement on n'y pense tellement pas qu'on peut passer à côté aussi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes ou à des gens?
Ben, malheureusement pour moi, donc non, il n'y avait aucun symptôme, il n'y avait rien du tout. Quand on est jeune, à 17 ans, on ne va pas souvent chez le gynécologue ni quoi que ce soit. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on pense à faire quand on est jeune à cet âge-là. Et c'est clair que si je dois donner un conseil, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour aller consulter, que ça soit un gynécologue, que ça soit un autre spécialiste ou face à la maladie. Donc, il faut, comme un dentiste, on va, ne serait-ce que si tout va bien, on va une fois par an. Eh bien, il faut faire ces tests-là aussi. Enfin, il faut aller voir un gynécologue une fois par an, ça c'est en fait certain.
Alors, après cette première opération, tu as commencé ta vie active. Tu es aussi maman d'une jeune femme de 25 ans. Tu es grand-mère de deux petits-enfants qui sont adorables. Ils ont quel âge, les petits-enfants?
2 ans et 1 an.
Alors, donc tu as commencé ta vie professionnelle, ta vie sentimentale. Et comment ça s'est passé à cette époque-là? Il y avait des contrôles tous les 3 mois? Il y avait des examens réguliers?
Effectivement, en fait, après mon opération, donc j'ai été très vite, il fallait faire un suivi de tous les trois mois. Et puis ça passe à 6 mois et puis 1 an. Je commence ma vie, donc j'ai ma fille, je commence ma vie. Et puis je mets de côté tout ça puisque j'étais un peu dans le déni. Et ça m'embêtait parce que tous les 3 mois, tous les 1 mois, et en réalité on me disait que tout allait bien. Donc c'était assez compliqué, je me dis ouais, cela il se moquait un peu de moi. Et donc j'ai mis ça de côté et j'ai continué ma vie de femme.
Tu es toujours performante, ambitieuse, tu voulais gravir les échelons dans ton métier aussi. Donc ça fait partie de l'ambition puis de la réalisation de la vie. Donc la maladie, tu l'as mise un petit peu de côté, c'est ça, en disant finalement ça va.
Exactement, c'est ce qui s'est passé. J'étais un peu carriériste à l'époque,
mais ce qui est normal.
J'en voulais beaucoup et donc du coup j'ai mis ça de côté en me disant ouais, tout va bien, ça fait des années que j'ai plus rien et c'était pas le cas au fait.
Je crois qu'il y a eu 3 récidives. Hein.
Il y en a eu 4 au total.
4 alors.
Et donc à 28 ans, j'arrive à ma deuxième récidive. Et effectivement, là, je commence à m'inquiéter. Et donc du coup, il y a de nouveau une opération. pour la simple et bonne raison que je veux avoir des enfants puisque j'avais recommencé ma vie et que je voulais
un deuxième enfant
pour ma fille aussi. Et donc, il fallait conserver l'utérus. Et une deuxième opération, c'était le mieux pour moi, en tout cas. Et donc là, malheureusement, j'ai eu mon opération et puis j'ai fait pas mal de fausses couches après. Et donc, des années plus tard, je me suis rendu compte que j'en aurais pas, quoi.
Que ça serait
juste ma fille. Et c'est pas plus mal non plus, parce que voilà, on est bien aussi.
Et puis, vous entendez très bien. On peut donner son prénom. Hein,
oui, tout à fait. Elle s'appelle Morgane.
Et Morgane est toujours venue près de toi. Elle a même dormi à l'hôpital. Elle a vraiment été un soutien très, très important dans sa vie de jeune fille et de très, très jeune, parce que finalement, peut-être que ça l'a confrontée malgré elle à quelque chose de grave, et peut-être que ça lui a donné aussi une maturité. Alors finalement, avec toute la faculté de résilience que tu as, à partir de quand tu as décidé de fonder Fight X Life, qui est cette association, cette ASBL que tu as créée justement pour permettre aux personnes atteintes du cancer, petit et grand, je dis toujours vraiment malheureusement, de combattre, parce que c'est ta force, c'est ton combat et c'est la boxe. Et la boxe est vraiment un élément important dans ta vie. Alors comment ça s'est passé? Il y a une rencontre avec un grand boxeur qui nous a quittés.
Exactement.
On peut citer aussi Benoît
Emblème,
voilà.
Donc qui est un grand ami, qui a été comme un frère pour moi, enfin qui est toujours malgré qu'il ne soit pas là. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été diagnostiquée à mon troisième cancer d'un cancer de l'utérus de nouveau et métastasé après toutes mes péripéties, j'avais pris du poids, j'étais en dépression pendant 3 ans. Et lui m'a dit viens faire de la boxe avec moi. J'ai refusé et malheureusement donc il est décédé. Et le lendemain, j'ai pris ça comme une vengeance et je me suis inscrite à un club de boxe.
C'était Émergence,
c'était Émergence XL à la Valentine. Et comme mon ami faisait le pied-point, donc j'ai fait la même chose que lui. J'ai pris vraiment sa route. Et donc, du coup, pendant 3 ans avant, je me suis entraînée. Et malheureusement pour moi, en 2018, j'ai eu
encore
une récidive d'une métastase au poumon. Donc, j'ai été opérée au poumon. Et donc j'ai boxé entre le temps du diagnostic et le temps de l'opération. Il faut savoir que ça a pris 3 semaines. Et donc là, je me suis dit, je vais boxer, je vais me vider, il faut que je dégage cette colère. Et donc je suis arrivée sereine à l'hôpital, accompagnée toujours de ma fille. Et j'étais bien, je suis sortie très tôt. Avant, je faisais vraiment 7 jours à l'hôpital, malgré que c'est une grosse opération. Là, j'en avais fait 5. J'étais beaucoup plus zen. Et donc, du coup, en sortant de l'hôpital, je me suis dit, mais j'ai fait un peu le point, le check. Et je me suis rendu compte que la boxe m'avait beaucoup aidée par rapport à ça. Et donc, je me suis dit, cet outil-là, il va falloir que je le mette
au
service des autres aussi, et qu'ils puissent l'utiliser. Et donc, j'ai créé Fight X Life, et je donne des cours de boxe adaptés en salle et en piscine.
Alors, ce que je voulais aussi rappeler aux auditeurs, auditrices, c'est que quand tu as commencé à boxer, tu n'as pas dit à tes partenaires de boxe, de combat, que tu étais atteinte de cancer. Tu as toujours gardé ça pour toi, parce que tu voulais justement être comme les autres, pas être traité avec différence et égard. Justement, tu voulais toujours mener ta vie comme s'il n'y avait pas de cancer. Et c'est peut-être aussi une force, mais finalement, ils ont fini par l'apprendre. Hein, le jour J, où il y a eu ce coup de fil fatidique pour te signaler la récidive, tu m'as expliqué que tu boxais en pleurant, finalement, les larmes coulaient. Mmh. Et il y a eu un énorme élan de solidarité aussi vis-à-vis de toi. Ils ont compris aussi.
Oui. Effectivement, en fait, faut savoir que quand on a une maladie, ou même quand on est obèse, ou quand on a, peu importe, le diabète ou quoi que ce soit, c'est très difficile d'aller vers dans une salle de sport.
Oui, on est complexé, on a peur, parfois, voilà, bêtement, c'est dommage parce qu'on ne devrait pas.
Exactement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, comme j'étais opérée des poumons, donc je savais qu'au niveau cardio, je n'en avais pas et que j'avais perdu beaucoup. Et comme j'étais une grande sportive, donc je ne voulais pas me heurter à ce genre de choses. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, OK, je vais m'inscrire là-bas, mais je dis rien. Je dis rien, je veux qu'on me traite comme tout le monde et je veux pas qu'on me facilite la vie et que qu'on me laisse dans un coin ou quoi que ce soit. Donc, du coup, j'ai mené vraiment mon combat par rapport à moi-même, à mes capacités et du fait qu'eux ne le savaient pas, sans le savoir, ils m'ont m'ont tiré vers le haut, au fait. Que ça soit dans mes, dans ma boxe, dans mon physiquement, que ça soit mentalement, ou que ça soit dans mon isolement, qui, ils ont réussi à me faire sortir de l'isolement sans le savoir, au fait. Et donc, tout ça, ça a été un combat très dur pour moi. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai retrouvé vraiment une famille. Au fait.
Une famille de cœur. Mais il y a aussi ta famille qui est très présente, ta famille personnelle. Oui. Vous êtes 7 enfants et tout le monde participe à Fight X Life. Hein. On expliquera ça tout à l'heure.
Exactement.
C'est vraiment une aventure de cœur collective. Alors, comment ça s'est passé, Sarah ? Eh bien, entre le moment de cette création, de cette décision de création de Fight X Life et en même temps la mise en place, je crois que tu as tapé à certaines portes, mais tu as eu la volonté de le faire. Comment ça s'est passé ?
Alors, ce qui s'est passé, donc moi, je suis à la base, je suis manager shop. Je suis déjà un bon leader dans la vie de tous les jours. Et ce qui se passe, c'est que ma sœur connaît beaucoup de monde.
Fatia, non ?
Fatia Reski. Et donc, du coup, elle m'a permis elle a parlé de mon projet, de ma réalisation. Et il y a des personnes qui ont cru à ce que je voulais faire. Et elle m'a dirigé vers certaines personnes. Donc au tout début de Fight X Life, il y a eu Start Création, Nadine Minempala, qui m'a aidé à faire tout ce qui est statut, qui m'a accompagné et tout ça. Et puis il y a aussi Ayman Ramdani, de la Play for Peace, qui lui aussi m'a soutenu et qui m'a aidé, qui m'a accueilli dans ses locaux aussi, parce qu'il fallait trouver des locaux, il fallait mettre une adresse, il fallait mettre en
tout
place pas mal de choses
administratives.
Et donc, il m'a appuyé par rapport à tout ça aussi. On a revu les statuts, on a refait pas mal de choses. On a travaillé aussi ensemble avec la Play for Peace. Et donc, voilà, ce sont des personnes qui, à l'heure actuelle, sont toujours à mes côtés. Et qui ont toujours un petit regard au-dessus de mon épaule pour me guider et me soutenir dans tous mes projets.
Alors, je crois qu'aujourd'hui, il y a 100 membres de Fight X Life. Alors, il y a aussi des piscines, puisque la boxe est pratiquée aussi en piscine, parfois peut-être pour aider certains mouvements. Alors, quelles sont les salles qui participent à Fight X Life et les piscines, si on peut les citer ?
Alors, il y a donc on a deux salles, on a la salle au Phoenix Ada aussi, donc là c'est vraiment la boxe adaptée, on a la salle Amel Amjahid qui est sur Molenbeek, et là c'est spécifique 100% féminin. Le but est de pouvoir toucher aux femmes pour pouvoir les sensibiliser au cancer et faire de la prévention. Ça, c'est vraiment notre but, et lever surtout les tabous sur tout ce qui est cancer du sein, l'utérus, et les amener à se diagnostiquer le plus rapidement possible aussi, et de pouvoir en parler.
Donc favoriser la prévention.
Oui, exactement. Et en même temps aussi pour l'hygiène de vie, pour tout ce qui est au niveau sportif, parce qu'on le sait, c'est scientifiquement prouvé, le sport aide au niveau de la santé beaucoup.
Et donc, déjà rien que
moi pour la, voilà, ouais. Exactement, rien que pour moi déjà dans mes récidives, c'est déjà prouvé scientifiquement aussi. Donc
on a des piscines
où on donne des cours de boxe, et là c'est à Victor Bouin, et on a la piscine aussi de piscine Bruxelles Centre au jeu de balle.
Alors, est-ce qu'on peut te demander aussi, les plus petits participants ont quel âge ? Ça va de quel âge actuellement ?
Alors là, on est sur des adultes.
Oui.
Et en général, je pense que c'est 25 ans et ça peut aller jusqu'à 65.
Donc finalement, à tout âge, on peut venir et...
Il n'y a pas d'âge chez nous.
Voilà, c'est ça qui est magnifique, se dire c'est possible.
C'est possible et ça a été fait. D'ailleurs, moi, on a été... mon premier membre avait 60 ans. Il avait un cancer, il avait fait un AVC. C'était un ami à moi et donc voilà, et on l'a aidé beaucoup. Et les kinés avec qui il travaillait, on travaillait aussi avec eux et ils étaient contents de le voir chez nous aussi.
Et je crois qu'il y a une salle de boxe où même si on n'a pas le cancer, on peut venir. Hein. C'est ce que
exactement,
tu disais tout
c'est
à l'heure.
Chez les femmes. C'est là où on va faire cette prévention.
Et est-ce que parfois il peut y avoir des personnes qui n'ont pas le cancer, qui font du sport avec des personnes qui ont le cancer ? Est-ce que
oui.
Ça c'est possible ?
Alors comme nous on travaille beaucoup avec les hôpitaux de Belgique, on travaille beaucoup avec psychologues, kinés et tout ça. Le but, leur retour, c'est de ne pas mettre les gens dans une catégorie. Et donc, on a ouvert un peu les portes à, un peu à tout le monde.
Pour un mieux vivre ensemble, pas que ce soit un ghetto.
Voilà. Et non seulement aussi, comme moi j'ai eu mon vécu, c'est que les autres, comme ne le savaient pas, eh ben, ils m'ont tiré par le haut. Et c'est ce qui se passe, au fait. Le but que quelqu'un qui est malade, qui a des soucis, eh bien, quand il va voir l'autre pouvoir s'entraîner, aller plus loin, eh bien, automatiquement, il va vouloir faire la même chose et ça va le pousser dans ses limites et ça va le pousser à aller plus loin et à reprendre confiance en soi. Et donc ça, c'est vraiment au niveau pédagogique, c'est ce qu'on essaye de faire, que ça soit en piscine et que ça soit dans la salle.
Très chers auditeurs et auditrices, nous allons avec Sarah Reski évoquer la Smilebox qu'elle a créée, qui est une boîte en carton. Évidemment, c'est pour les petits enfants malheureusement qui sont atteints du cancer. Alors Sarah, comment t'es venue cette géniale idée de la Smilebox? C'est venu d'un besoin aussi, hein?
Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des mamans qui m'ont contactée, qui avaient des soucis financiers parce qu'elles étaient monoparentales. Et puis, même quand il y a les deux parents, c'est souvent un problème puisqu'il y en a un qui doit mettre sa carrière en pause.
En pause, oui.
Et donc, moins de finances, plus de difficultés. Il faut savoir que pendant la chimio, la peau se dessèche. Et donc, du coup, les médecins préconisent des produits tels que la roche-posée. Et un jour, il y a une maman qui m'a parlé de ça. Je me suis dit, waouh, elle ne sait pas s'offrir les produits. Je vais faire le test, je vais quand même voir combien ça coûte. Et j'ai fait le test. Et c'était...
C'est assez onéreux. Lipicar, c'est une très, très bonne gamme de produits.
Exactement.
Mais c'est un certain budget.
Et donc, là, on est dans une nouvelle création d'une nouvelle équipe qui chapeaute Fightix Life, parce que Fightix Life grandit, mais les membres aussi grandissent. Et donc, j'ai Karima Menassar, qui est une photographe aussi et qui est project manager. Et j'ai une membre qui a intégré aussi notre association, Mirella Guissou. Et donc, ensemble, on a décidé, on s'est dit, ben, pourquoi on ne va pas les aider et on va créer quelque chose. Donc, tout de suite, moi, j'ai pensé à la Smilebox et on s'est dit, ben, on va aller voir La Roche-Posée et on va leur demander de nous donner les produits. Donc, on a contacté La Roche-Posée. Tout de suite, ils nous ont dit OK, on signe avec vous. Il faut savoir que c'est plus de 500 enfants qui sont diagnostiqués du cancer par an sur toute la Belgique. On ne compte pas là-dedans les récidives et les rechutes. Donc on m'a dit OK, on leur a dit pour 700 enfants cette année-ci. Et ils étaient d'accord. Donc là, il fallait rajouter dans cette boîte, on a rajouté un t-shirt, on a rajouté
une casquette
aussi.
Qui est importante parce qu'il y a. Malheureusement, voilà, des pertes de cheveux. Et puis, ça leur donne un look sympa. Il y a un petit smiley aussi. Hein,
oui, c'est ça. Donc, on l'a appelé Smilebox pour le sourire qu'on donne aux enfants. Et en même temps, la box qui représente les cours de boxe qu'on donne. Donc, il fallait pas quitter ça. Et donc, du coup, pour pouvoir donner cette box, il fallait travailler avec les hôpitaux.
Alors,
par facilité.
Hôpitaux?
Donc, à l'heure actuelle, on travaille avec l'UDERF, qui est l'hôpital des enfants de Bruxelles. On travaille avec la Fondation de Liège, le CHU Liège. On travaille avec l'USETH Anvers. On travaille avec, on est en échange avec Gand. Et on a Saint-Luc. Il ne nous reste plus que Leuven maintenant
Et Bordet peut-être, non?
Bordet ne font non, pas les enfants. Enfin, on est vraiment spécialisé dans les onco-pédiatriques.
D'accord.
Alors, ce qui nous avait touché aussi, c'est qu'une maman a eu des soucis avec son enfant pendant les soins, parce que ces soins durent pendant 2 ans, voire 3 ans. Tout dépend du type de cancer. Là, je parle de leucémie surtout. Et il y avait des problèmes de communication entre le personnel et l'enfant pour ces soins, surtout quand ils sont petits. Ils ont 2 ans, 2 ans et demi, ils sont très vite colériques, ils ne comprennent pas. Et donc, il fallait donner un outil à cet enfant.
Et cet outil qui est là, c'est Benkick, c'est ça? C'est
exactement.
Cette peluche géniale que tu vas nous expliquer, qui a vraiment plusieurs expressions. Hein.
Voilà, donc c'est une petite peluche, une petite boule de poils qui est un kangourou fatalement et qui représente la boxe toujours. Et qui est d'un côté, c'est il a un grand sourire. Et puis quand on le retourne, eh bien,
il est fâché.
Et là, donc ça peut donner un signal aux parents, aux
soignants,
psychologues, aux soignants, aux kinés, que quand l'enfant ne veut pas parler, parce que souvent ils sont petits, ils n'ont pas envie de discuter, ils en ont marre, eh bien, il peut mettre cette peluche et ça peut avertir. Et même les parents peuvent l'utiliser. Hein. Alors, on a déjà fait des distributions et je peux vous dire que cette peluche, elle a beaucoup de succès auprès des hôpitaux, auprès des soignants, mais aussi des enfants.
Et c'est Fatia qui a dessiné cette peluche, c'est ça? Parce que c'est une affaire de famille ou alors c'est encore une autre sœur?
C'est encore une autre sœur qui est styliste, qui a fait des études de styliste. J'ai été la voir, je lui ai pris la poulpe et je lui ai dit, moi je veux ça, mais je veux un kangourou. Donc elle m'a regardée, elle m'a dit, bon ben on va essayer. Et j'avais des stagiaires aussi en marketing et ils ont travaillé là-dessus. Et ma sœur m'a dessiné ça.
C'est génial.
Et donc, on a été vite le faire. Et donc, ça donne cette petite peluche. Et en hommage à notre ami Benoît Amblène, on l'a appelé Ben Kick. Donc, le kick du kickboxing et Ben qui est son nom.
Et je rappelle aussi que c'est comme une marionnette. Hein. L'enfant peut glisser sa main à l'intérieur.
Exactement.
Et puis changer l'expression.
Le petit,
donc, il peut même parler avec lui.
Exactement.
C'est comme son copain.
Ça sert de petit doudou, ça sert
de confident.
De confident, oui. Et donc voilà, et on est content, on est fiers, en tout cas, que ça plaise dans les hôpitaux. Et ce qui est important, souvent les gens m'ont dit, ah, mais la roche-posée, ça va, les enfants ne seront pas contents. Alors, c'est totalement faux, parce que la première réaction, dès que les enfants voient les produits de la roche-posée, c'est tout de suite, c'est me dire, ah, ben tiens, ah, c'est la crème pour mes cicatrices. Ah, ben tiens, j'en avais plus. Enfin, c'est toujours bien accueilli et ça reste aussi un cadeau pour les enfants parce qu'ils savent l'importance de ces produits pour leur peau.
Alors Sarah, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux auditeurs par rapport à la prévention? Parce que tu expliquais qu'il y avait une récidive du cancer.
Oui, exactement.
Malheureusement.
Ben, c'est comme souvent, c'est ce que je dis, il faut vraiment pas aller visiter, déjà commencer par son généraliste. Et si besoin, le généraliste va vous
guider
vers un spécialiste. Et il faut vraiment pas avoir peur. Et surtout, il y a vraiment pas d'âge. Surtout à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de jeunes.
Malheureusement atteints.
Malheureusement. Je parle pas des adolescents, mais je parle ici
des
25 ans.
Ah, des 25 ans.
28 ans, 30 ans. J'ai encore une membre là qui vient d'arriver chez nous. Elle a à peine 28 ans. Donc voilà, il y en a de plus en plus et vraiment l'autopalpation, c'est important aussi parce que le cancer du sein grandit de jour en jour et qu'il faut vraiment y aller quoi, et que ça soit homme ou femme, parce que on pense que le cancer du sein par exemple c'est uniquement féminin, c'est faux. C'est des hommes peuvent l'avoir. Le problème, c'est que on parle de l'autopalpation spécifique aux femmes, alors que l'homme doit le faire aussi. Et je suis sûre que il y en a pas beaucoup qui le font. Donc du coup, je le conseille vivement aussi aux hommes, parce que ça commence aussi à prendre aussi chez les hommes.
De l'ampleur.
Oui.
Et peut-être que tu pourrais lancer une campagne de prévention. Je crois qu'il y avait eu pour les femmes un petit badge avec un ruban rose, comme il y avait eu pour le sida avec un ruban rouge.
Ouais.
Peut-être qu'il y aurait aussi quelque chose à mettre en place par rapport aux hommes. Parce que finalement, c'est vrai qu'on n'y pense même pas.
Ouais. Tout à fait. Ben moi, ce que je fais souvent sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'utilise par exemple pour Octobre Rose. J'utilise plus souvent l'homme que la femme, déjà pour faire de la sensibilisation. Alors il faut savoir que Fight X Life, on fait tous les types de cancers. On n'est pas sur un cancer bien spécifique. On veut rester ouvert à tous. Qu'on ait un cancer de l'utérus ou du sein ou
une leucémie,
peu importe. C'est pas ça qui va, puisqu'on n'est pas vraiment dans l'étape de discussion, parce que c'est pas notre rôle. On n'est pas là pour ça. On n'est pas professionnel en tout cas pour cadrer ce genre de type d'atelier et donc voilà, c'est beaucoup plus facile pour nous. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus, et d'ailleurs même avec mon oncologue on se fait souvent la remarque, parce que je travaille aussi avec elle.
Et on est-ce se qu'on fait peut souvent... la citer peut-être?
Oui, bien sûr, c'est le docteur Van Stelland
qui suit depuis de nombreuses années,
oui,
hein, et qui a toujours refusé de faire de la chimio, hein, justement,
oui,
parce que ça
soigne
d'un côté, voilà, et malheureusement ça détruit parfois de l'autre.
Exactement.
Oui.
Exactement. Bah d'ailleurs, grâce à elle, elle fait partie des administrateurs des fonds cancérologiques de Saint-Michel. Et cette année-ci, nous avons pu distribuer pour Noël des cadeaux à l'hôpital, au service onco-pédiatrique de Saint-Luc. Pour tous les enfants, on leur a offert des petits cadeaux pour Noël. Ah bah, ça a été un moment
de joie. Avec un Père Noël, voilà.
Voilà.
Et bah, peut-être aussi, il y a des grands sportifs ou des artistes, des chanteurs, danseurs, enfin des écrivains qui pourraient venir aussi participer à tout ça, à des campagnes de sensibilisation. Alors, ça serait peut-être un appel à faire, justement. Et tu disais que le cancer, c'était très sournois et qu'il ne faut pas attendre. Hein. Ça, je reviens vraiment là-dessus. Parce que finalement, tu disais que quand on s'en aperçoit, c'est déjà... Ouais. Très, très important.
En général, c'est ce qui se passe et c'est ce que j'entends déjà de toutes les personnes qui sont autour de moi. Et c'est les premiers à me le dire. Ils me disent souvent, tu sais, quand on a le cancer, c'est très silencieux. Mais quand ça fait mal, c'est que c'est déjà trop tard en règle générale. Et c'est vrai, quand je vois autour de moi, je me dis, waouh, ouais. Moi, je connais beaucoup de personnes qui en ont souffert et qui ne sont plus malheureusement... avec nous à ce jour, quoi.
Mais ils nous accompagnent.
Ils nous accompagnent.
Voilà, leur force est toujours là et leur présence est toujours là. Alors, comment est-ce qu'on peut te joindre, Sarah, pour justement aider, donner des fonds, participer où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux?
Alors, je suis sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, Snap, TikTok. Je suis partout, au fait. On me voit partout. On utilise beaucoup Facebook.
Ce qui
surtout.
Est important. Donc, on fait quoi, Sarah Reski, Fighting
Sarah
Life ou les deux?
Les deux. Voilà, même sur Google, il y a mon numéro de téléphone. Vous avez sur notre site, tout est bien expliqué. Vous pouvez nous envoyer des messages aussi, bien sûr. C'est sûr, on a toujours besoin de bénévoles. Parce que l'ASBL grandit, on a beaucoup de projets, on a de plus en plus, les hôpitaux travaillent de plus en plus avec nous, donc il faut créer beaucoup d'échanges, on va commencer les ateliers aussi de boxe dans les hôpitaux, donc il va nous falloir beaucoup de boulot, on a beaucoup de boulot. Peut-être. Donc bénévoles, sponsors aussi, on a besoin d'aide parce que la Benki qui a besoin de revenir, d'être redistribuée.
Très très présent, voilà.
Voilà. Les t-shirts, on a Asia Sport qui nous les offre.
Il y aura peut-être des porte-clés aussi à faire,
oui,
parce que ça c'est des objets, un stylo qui
voilà.
sont utilitaires,
il y a
plein de choses, peut-être même des objets pour les parents, pourquoi
Exactement.
pas.
Exactement. On aimerait faire des petits bonnets sympas pour les jeunes filles, des petites
qui sont
un peu coquettes,
qui ont envie d'être jolies.
Exactement. Et puis voilà, c'est clair qu'on manque de fonds. C'est clair qu'on organise des crowdfunding, on organise des galas
pour ça aussi.
Voilà. On fait notre maximum pour qu'on puisse aider et soutenir toutes ces familles et tous nos membres aussi. Parce qu'il n'y a pas que les enfants, il y a nos membres aussi, quand ils en ont besoin, on peut les accompagner dans leur démarche, dans leur suivi, quand ils en ont besoin. On peut les accompagner aussi chez les médecins, on peut les aiguiller aussi, puisqu'on travaille avec pas mal de médecins, que ce soit dans la douleur, oncologue, kiné, on a tout un panel de médecins qui travaillent avec nous et qui supervisent aussi notre travail aussi, ça c'est important de le dire.
Soutien énorme
oui.
qui se développe. Malheureusement, comme tu disais, t'aurais pas eu envie que ça se développe. Je faisais un parallèle parfois avec certaines associations, si je peux me permettre, avec les Restos du Cœur. Pourquoi lui, je pensais que ça durait un an. On en est à la 38e année. Alors on voudrait que ça ne se développe pas. Et finalement, on est tous concernés. Donc ça se développe malgré nous.
Ça se développe de plus en plus. Et... mauvaise prévision, en tout cas pour 2030, et c'est vraiment à la hausse, pas chez les enfants, mais chez les adultes. Et faut vraiment que les gens prennent conscience qu'il faut vraiment pas avoir peur d'aller chez un médecin pour une broutille, en tout cas chez son généraliste, et surtout, si besoin et si crainte, il faut aller voir et consulter. Ça, c'est vraiment le plus important. Et il faut apprendre à connaître son corps,
savoir l'écouter.
Surtout, faire du sport.
Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, Sarah, un tout grand merci d'être venue partager avec nous tous eh bien, cette magnifique association Fight X Life, cette magnifique aventure humaine qui nous concerne tous. Et puis, cette Smilebox qui donne vraiment le sourire, la pêche et la foi en l'existence. Et puis, surtout, qu'un jour, le cancer, peut-être que dans 100 ans, ça n'existera plus. On est optimiste.
J'espère.
On espère. Merci beaucoup.
Merci, Virginie.
À très bientôt.